Chapitre 16. Convergence. 64. Quand Storge Andibal eut enfin réussi à repérer sur son écran le vaisseau de Comport, il lui sembla être parvenu au terme d'un voyage incroyablement long. Pourtant, bien entendu, ce n'en était pas le terme, mais simplement le début. Le voyage de Trantor à Seychelles n'avait jamais été qu'un prologue. Novi avait l'air très impressionné.
« Est-ce que c'est un autre vaisseau d'espace, maître ?»«
Vaisseau spatial, Novi, oui. C'est celui qu'on essayait de rejoindre. C'est un modèle plus gros et meilleur que le nôtre. Il peut se déplacer dans l'espace à une telle vitesse que s'il voulait nous fuir, ce vaisseau ne pourrait même pas le rattraper, pas même le suivre. »
« Plus vite qu'un vaisseau des maîtres !»
Soura Novi paraissait atterré par une telle éventualité. Jean Dibal haussa les épaules. « Je suis peut-être un maître, comme tu dis, mais je ne suis pas maître de toute chose. Nous autres chercheurs ne possédons pas de vaisseau comme celui-ci, pas plus que nous ne disposons d'appareillage matériel analogue à ceux des possesseurs de ces vaisseaux.
Mais comment les chercheurs peuvent-ils ne pas avoir de telles choses, maître ?
Parce que nous sommes des maîtres de ce qui est important. Tous ces progrès matériels dont ils peuvent bénéficier ne sont que broutilles. » Novi fronça les sourcils, plongé dans un abîme de réflexion.
Il me semble que pouvoir aller si vite qu'aucun maître ne peut vous suivre n'est pas de la broutille. Qui sont donc ces gens capables de prodiguer ainsi, enfin, d'avoir de telles merveilles?
Jean Dibal était amusé. Il se baptise la Fondation. As-tu déjà entendu parler de la Fondation? Il se prit à s'interroger sur l'étendue des connaissances des Choyens concernant la galaxie et sur les raisons pour lesquelles les orateurs n'avaient jamais eu l'idée de se poser ce genre de questions. Ou bien, était-ce seulement lui qui ne s'était jamais interrogé là-dessus? Lui seul qui avait cru les Choyens tout juste capables de gratter la Terre? Novi hocha pensivement la tête.
Je n'en ai jamais entendu parler, maître.
Quand le maître d'école m'a transmis l'art des lettres, m'a appris à écrire, je veux dire, il m'a expliqué qu'il y avait des tas d'autres mondes et m'a même dit le nom de certains. Il disait que Choyer s'appelait en réalité Trantor et qu'elle avait autrefois commandé tous les autres mondes, que Trantor était recouverte d'acier brillant et qu'elle avait un empereur qui était un grand maître tout-puissant. Elle leva vers Jean Dibal un regard timidement amusé.
« Mais j'en ai parcouru la plupart. Il y a plein d'histoires que les 13 paroles racontent lors des longues veillées. Quand j'étais petite fille, j'y croyais à toutes. Mais en grandissant, j'ai découvert que la plupart n'étaient même pas vraies. Je crois plus à beaucoup à présent. Peut-être même à aucune. »
Même les maîtres d'école racontent des incroyableries. Et pourtant, Novi, cette histoire que t'a racontée ton maître d'école est bien vraie. Mais c'était il y a très longtemps. Trantor était effectivement recouverte de métal. Et elle avait bien un empereur qui dirigeait toute la galaxie. Mais aujourd'hui, ce sont les gens de la Fondation qui sont appelés à diriger toutes les planètes. Ils deviennent chaque jour plus puissants.
Ils vont tout commander, maître?
Pas tout de suite, Novi. Dans 500 ans.
Et ils seront les maîtres des maîtres aussi?
Non. Non. Ils dirigeront les planètes. Mais c'est nous qui les dirigerons, eux, pour leur bien et le bien de toutes les planètes. Novi fronçait de nouveau les sourcils. Elle demanda:
« Maître, est-ce que les gens de la Fondation en ont beaucoup de ces vaisseaux prodigieux ?»«
Je l'imagine, oui. »«
Et encore plein d'autres choses aussi étonnantes ?»«
Ils ont toutes sortes d'armes puissantes. »«
Alors, maître, ne peuvent-ils pas s'emparer de tous les mondes tout de suite ?»«
Non, ils ne peuvent pas. Le temps n'est pas encore venu.
Mais pourquoi? Est-ce que les maîtres les arrêteraient?
On n'en aurait pas besoin, Novi. Même si on ne faisait rien, ils ne pourraient quand même pas s'emparer de toutes les planètes.
Mais qu'est-ce qui les arrêterait?
Vois-tu, expliqua Jean Dibal, il existe un plan que conçut jadis un homme très sage. Il s'arrêta, esquissa un sourire et hocha la tête. C'est difficile à expliquer, Novi. Une autre fois, peut-être. En fait, quand tu auras vu ce qui va se passer avant qu'on ait l'occasion de revoir Trantor, il se peut que tu comprennes sans avoir besoin de mes explications.
Que va-t-il se passer, maître?
Je ne suis pas sûr, Novi, mais tout se passera bien. Il se détourna pour se préparer au contact avec Compor, et, ce faisant, il ne put empêcher une petite voix intérieure de lui seriner.
Du moins, je l'espère.
Il en conçut aussitôt de l'irritation, car il savait très bien d'où lui venait cette idée stupide et débilitante. C'était à cause de cette image de la formidable puissance, de la complexité de la fondation ramenée aux simples dimensions du vaisseau de Compor, image qui, à son grand chagrin, provoquait néanmoins ouvertement l'admiration de Novi. Stupide. Comment pouvait-il se laisser aller à comparer la détention de la force, du pouvoir matériel, avec la détention de la capacité à guider les événements? C'était ce que les générations d'orateurs avaient appelé l'illusion du couteau sous la gorge, et penser qu'il n'était pas encore immunisé contre ces séductions. 65. Munly Compor ne savait pas le moins du monde quelle attitude adopter. Depuis toujours, il avait vécu sur cette vision d'orateur existant juste au-delà des limites du cercle de son expérience, d'orateurs avec lesquels il n'entrait qu'épisodiquement en contact et qui tenaient dans leur étreinte mystérieuse l'ensemble de l'humanité. Parmi eux tous, c'était vers Stor Jean Dibal que ces dernières années, il s'était tourné pour trouver un guide. Ce n'était même pas de vive voix qu'il était entré en contact avec lui, mais par une simple présence dans son esprit. De l'hypercommunication en somme, sans hyper-relais. De ce côté-là, la seconde fondation était allée bien plus loin qu'eux. Sans l'aide d'aucun dispositif matériel, par la simple maîtrise de la force de l'esprit, ils étaient capables de communiquer à travers les parsecs, d'une manière impossible à espionner, impossible à brouiller. C'était un réseau invisible et indétectable qui maintenait la cohésion de toutes les planètes par l'intermédiaire d'un nombre relativement réduit d'individus dévoués. Compor avait plus d'une fois éprouvé comme une espèce de fierté à l'idée de son rôle dans ce processus, si réduite était la petite troupe dont il faisait partie, et si énorme pourtant l'influence qu'elle exerçait. Et tout cela dans le plus grand secret, même sa femme ignorait tout de sa vie cachée. Et c'étaient les orateurs qui tiraient les ficelles, et surtout celui-ci, ce Jean Dibal, qui, estimait Compor, pouvait fort bien être le prochain premier orateur, devenant ainsi le plus qu'empereur d'un plus qu'empire. Et voilà que Jean Dibal était là, dans un vaisseau de Trantor, et Compor dut lutter contre sa déception que la rencontre n'eût pas pris place sur Trantor même. Se pouvait-il que ce machin fût un vaisseau de Trantor? N'importe lequel de ces marchands qui jadis sillonnaient une galaxie hostile en transportant les produits de la Fondation aurait été mieux équipé que ça. Pas étonnant qu'il lui eût fallu si longtemps pour couvrir la distance de Trantor à Seychelles. Il n'était même pas équipé d'un coupleur à sas universel permettant d'arrimer les deux vaisseaux lorsqu'on avait besoin d'effectuer un transbordement de personnel. Et pourtant même la minable flotte seychelloise était dotée d'un tel matériel. Au lieu de ça, l'orateur Jean Dibal était obligé d'abord de faire correspondre la vélocité des deux vaisseaux, puis de lancer entre eux une amarre le long de laquelle ils pourraient se tracter, comme au bon vieux temps de l'Empire. Tout juste, songea Compor lugubre et incapable de se dissimuler sa déception. Ce vaisseau n'était rien de plus qu'un vieux rafio impérial, et qui plus est, un petit modèle. Deux silhouettes progressaient le long du filin. L'une d'elles avec une telle maladresse que ce devait manifestement être sa première sortie dans l'espace. Enfin, elles furent à bord et purent ôter leur scaphandre. L'orateur Store Jandibal était de taille modeste et son allure n'impressionnait guère. Il n'était pas large et imposant. Il ne respirait pas non plus l'omniscience. Seul le regard de ses yeux sombres et profondément enfoncés dans les orbites témoignait de sa sagesse. Jandibal se mit à regarder autour de lui et montra ainsi qu'il était le plus intimidé des trois. Le second visiteur était une femme, aussi grande que l'orateur, d'allure assez quelconque, et elle aussi regardait autour d'elle, bouche bée. 66. Le transbordement par le filin n'avait pas été pour Jandibal une opération totalement désagréable. Sans être un homme de l'espace, aucun second fondateur ne l'était, il n'était pas non plus complètement un vermisseau rampant, car on ne l'aurait permis à aucun fondateur. La nécessité de prendre l'espace était une menace toujours présente à leur esprit, même si chacun d'eux espérait secrètement n'avoir à le faire que le moins souvent possible. Prime Palver, dont l'ampleur des déplacements spatiaux était devenue légendaire, avait dit un jour, non sans regret, que le succès d'un orateur se mesurait à la rareté des occasions où il était contraint de prendre l'espace aux fins d'assurer la réussite du plan. Jandibal avait déjà dû utiliser un filin trois fois auparavant. C'était donc la quatrième, et même s'il avait éprouvé quelque appréhension, elle se serait dissipée derrière ses inquiétudes pour Suranovi. Il n'était pas besoin de mentalique pour voir que la perspective de marcher ainsi dans le vide l'avait totalement bouleversée.
« Je vais être toute peurée, maître !»
avait-elle dit quand il lui avait expliqué ce qu'ils allaient devoir faire.
« C'est-y donc dans le rien que j'allions devoir poser pied ?»
À elle seule, cette brusque régression dans le plus épais dialecte choyen dénotait à l'envi l'étendue de son trouble. Jandibal lui expliqua doucement. « Je ne peux pas te laisser à bord, Novi, car je vais devoir monter dans l'autre vaisseau, et je tiens à t'avoir auprès de moi. Il n'y a aucun danger puisque tu seras complètement protégé par ta combinaison, et tu ne risques absolument pas de tomber, même si tu lâchais le filin. Tu resterais simplement où tu es. De toute manière, je serai à portée de main et je pourrai donc toujours te rattraper. Allons, Novi. Montre-moi un peu que tu es assez brave, comme tu t'es montrée assez intelligente pour devenir un vrai chercheur. » Elle ne souleva pas d'autre objection et Jandibal, réticent à déranger le calme ordonnancement de son esprit, parvint quand même à lui insuffler en surface une légère touche d'apaisement.
« Tu peux encore me parler ?» lui dit-il après qu'ils eurent revêtu chacun son scaphandre. « Je peux t'entendre à condition que tu penses bien fort. Pense bien chaque mot, un par un. Tu arrives à m'entendre, n'est-ce pas ?»«
Oui, maître. »
Voyant bouger ses lèvres derrière la visière, il lui dit « Prononce-les dans ta tête sans bouger les lèvres, Novi. Il n'y a pas de radio dans le genre de scaphandre qu'emploient les chercheurs, tout passe par l'esprit. » Les lèvres de Novi restèrent immobiles et son regard devint anxieux.
« Et là, vous m'entendez, maître ?»«
Parfaitement bien, » pensa Jandibal, les lèvres tout aussi immobiles. « Est-ce que tu m'entends ?»«
Oui, maître. » »«
Alors viens et fais pareil que moi. » Ils avancèrent. Jandibal connaissait la théorie du mouvement même s'il n'en maîtrisait que médiocrement la pratique. Le truc consistait à maintenir les jambes serrées et bien tendues, et à les projeter par un mouvement des hanches. Cela permettait de garder l'alignement du centre de gravité en contrebalançant alternativement avec les bras. Il avait expliqué la chose à Suranovi, et sans se retourner pour la regarder, il étudia sa posture à partir de l'examen des aires motrices de son cerveau. Pour une débutante, elle se débrouillait fort bien, presque aussi bien que Jandibal essayait de le faire. Réprimant ses propres tensions, elle suivait à la lettre ses instructions. Jandibal se sentit, une nouvelle fois, très content d'elle. Elle fut néanmoins manifestement soulagée de se retrouver à bord d'un vaisseau, tout comme Jandibal d'ailleurs. Il regarda autour de lui en ôtant son scaphandre et fut passablement interloqué par le luxe et le style de l'équipement qu'il découvrait. Il ne reconnaissait quasiment rien. Et se sentit défaillir à l'idée qu'il aurait peut-être bien peu de temps pour apprendre à manipuler tout cela.
Il aurait certes pu directement puiser l'expérience nécessaire dans le cerveau de l'homme qui était déjà à bord, mais c'était loin d'être aussi satisfaisant que l'apprentissage direct. Puis, il se concentra sur la personne de Comport. Ce dernier était grand et mince, de quelques années plus vieux que lui. Il était plutôt mignon dans le genre palichon, avec des cheveux tout bouclés et d'une étonnante blondeur. Et il apparut clairement à Jean Dibal que ce garçon était déçu, une déception qui frisait le mépris par cet orateur qu'il voyait pour la première fois. Qui plus est, il était totalement incapable de masquer ses sentiments. Jean Dibal ne s'en formalisait pas trop, néanmoins. Comport n'était pas un trentorien, pas plus qu'il n'était tout à fait membre de la seconde fondation, et il entretenait à l'évidence un certain nombre d'illusions. Même le plus superficiel examen de son esprit aurait pu le révéler. Et parmi ces illusions, il y avait celle que la force réelle était nécessairement associée à l'apparence de la force. Il pouvait fort bien les garder, ces illusions, aussi longtemps qu'elles n'entraveraient pas les projets de Jean Dibal. Mais pour l'heure, cette illusion bien précise entravait effectivement ses projets. Ce que Jean Dibal lui fit était l'équivalent en mentalique d'un claquement de doigts. Comport vacilla sous le coup d'une douleur aussi vive que fugace, comme une impression de concentration qui lui titilla la peau de l'esprit, lui laissant le sentiment d'une force aussi désinvolte qu'impressionnante et que l'orateur était capable d'exercer à sa guise. Comport en conçut un immense respect pour Jean Dibal. Ce dernier remarqua sur un ton plaisant. « Je ne fais simplement qu'attirer votre attention, Comport, mon ami. Et maintenant, faites-nous connaître la situation actuelle de votre ami Golan Trévise et de son compagnon Janov Pellerat. » Comport demanda hésitant. « Puis-je parler en présence de la femme, orateur ?»« Cette femme, Comport, est un prolongement de moi-même. Il n'y a pas de raison par conséquent pour que vous ne puissiez parler ouvertement. »« Comme il vous plaira, orateur. » Trévise et Pellerat approchent en ce moment d'une planète connue sous le nom de Gaïa. C'est ce que vous disiez dans votre dernier message de l'autre jour. Sans aucun doute ont-ils déjà atterri sur Gaïa et peut-être même sont-ils repartis. Ils ne sont pas restés longtemps sur Seychelles. Ils n'avaient pas encore atterri au moment où je les suivais encore, orateur. Ils approchaient de la planète avec une extrême prudence, faisant des pauses prolongées entre deux micro-sauts. Selon moi, il est clair qu'ils n'ont pas d'informations sur la planète qu'ils approchent, et par conséquent, hésitent. Et vous, Comport, avez-vous des informations ? Aucune, orateur. Du moins, mon ordinateur de bord n'en a pas. Cet ordinateur ? L'œil de Jean Dibal tomba sur le panneau de contrôle, et il demanda, pris d'un soudain espoir, est-ce qu'il peut aider au pilotage de ce vaisseau ? Il est capable de le gouverner intégralement, orateur. Il suffit simplement de le commander par la pensée. Jean Dibal se sentit soudain mal à l'aise. La Fondation en est-elle déjà à ce stade ? Oui, mais c'est loin d'être parfait. L'ordinateur ne fonctionne pas très bien. Il faut que je répète plusieurs fois mes pensées, et même comme ça, je n'obtiens qu'un minimum d'informations. Je dois être capable de faire mieux que ça, observa Jean Dibal. J'en suis certain, orateur, dit Comport avec respect. Mais laissons tomber pour l'instant. Pourquoi n'a-t-il aucune information sur Gaïa ? Je l'ignore, orateur. Il prétend, pour autant qu'on puisse dire d'un ordinateur qu'il ait des prétentions, il prétend posséder des données sur toutes les planètes habitées de la galaxie. Il ne peut pas détenir plus d'informations qu'on ne lui en a fait ingurgiter. Et ceux qui l'ont chargé croyaient à tort avoir des données sur toutes les planètes, si bien que l'ordinateur ne fera que répercuter cette même erreur d'interprétation, correct ?
Certainement, orateur.
Avez-vous enquêté à Seychelles ?
Orateur, dit Comport gêné.
Il y a des gens qui parlent de Gaïa sur Seychelles, mais ce qu'ils racontent est sans aucune valeur. Manifestement, de la pure superstition. À en croire leurs fables, Gaïa serait un monde puissant qui aurait même tenu jadis en respect le mulet.
Est-ce bien là ce qu'ils disent ? Demanda Jandibal en réprimant son excitation. Étiez-vous si certain que c'était de la superstition que vous n'avez même pas pris la peine de demander plus de détails ?
Absolument pas, orateur. J'ai posé des tas de questions, mais je n'ai rien obtenu de plus que ce que je vous ai déjà dit.
Apparemment, c'est ce que Trévis a entendu lui aussi, et il se rend à Gaïa pour quelques raisons en rapport avec ça. Pour tirer profit de cette fameuse puissance, peut-être. Et s'il le fait avec tant de précaution, c'est qu'il doit la craindre également.
C'est fort possible, orateur.
Et pourtant, vous ne l'avez pas suivi.
Je l'ai suivi, oui. Assez longtemps pour m'assurer qu'il se dirigeait bien vers Gaïa. Je suis revenu ensuite ici, à la lisière du système gaïen.
Pourquoi ?
Pour trois raisons, orateur.
Primo, vous étiez sur le point d'arriver, et je voulais vous rencontrer au moins à mi-chemin pour vous prendre à bord le plus tôt possible, selon vos instructions. Comme mon vaisseau est doté d'un hyper-relais, je ne pouvais pas trop m'éloigner de Trévis et Pellorat sans éveiller les soupçons de Terminus, mais j'ai estimé que je pouvais prendre le risque de m'écarter jusqu'ici. Secondo, quand il fut clair que Trévis approchait de Gaïa très lentement, j'ai jugé que j'avais le temps de venir au-devant de vous pour hâter notre rencontre sans être dépassé par les événements, d'autant que vous seriez plus compétent que moi pour suivre Trévis jusque sur la planète et éventuellement prendre en main la situation en cas de pépin.
Tout à fait exact.
Et la troisième raison ?
Depuis notre dernier contact, orateur, il s'est produit une chose aussi inattendue qu'inexplicable. J'ai senti qu'en conséquence, j'avais intérêt à précipiter autant que possible notre rencontre.
Et quel est cet événement aussi inattendu qu'inexplicable ?
Une partie de la flotte de la Fondation approche des frontières de Seychelles. Mon ordinateur a repris la nouvelle d'un bulletin d'information seychellois. Au moins 5 vaisseaux de reconnaissance composent cette flottille, et ils sont assez puissants pour écraser Seychelles.
Jandibal ne répondit pas tout de suite, car il eût été inutile de montrer qu'il n'avait pas prévu un tel mouvement, et qu'il ne comprenait pas. Aussi, après un moment, il dit négligemment
« Vous supposez que tout ceci est en rapport avec le mouvement de Trévis vers Gaïa ?»«
Cela s'est produit immédiatement après, et si B suit A, il y a pour le moins une possibilité que A soit la cause de B, » dit Compor.
« Eh bien, dans ce cas, il semblerait que nous convergions tous vers Gaïa. Trévis, moi, la première fondation. Allons, vous avez parfaitement agi, Compor. Et voici ce que vous allez faire à présent. Primo, vous allez me montrer comment fonctionne cet ordinateur et grâce à lui comment piloter ce vaisseau. Je suis sûr que ça ne prendra pas longtemps. Après cela, vous passerez à bord de mon vaisseau, vu qu'entre-temps, je vous aurai, par suggestion, appris son maniement. Vous n'aurez aucun mal à le manœuvrer, bien que je doive vous prévenir, comme vous l'aurez sans doute déduit de son aspect extérieur, que vous le trouverez assez primitif. Une fois que vous l'aurez en main, vous le maintiendrez ainsi en m'attendant.
Combien de temps, orateur ?
Jusqu'à ce que je revienne. Je ne pense pas être parti assez longtemps pour que vous risquiez d'être à court de vivres. Mais si jamais je subissais un retard imprévu, vous pourrez toujours gagner quelques planètes habitées de l'Union Seychelloise et m'y attendre. Où que vous soyez, je saurai vous retrouver.
À vos ordres, orateur.
Et ne vous inquiétez pas. Je suis capable de tenir tête à cette mystérieuse Gaïa. Et si besoin était, à ces 5 vaisseaux de la Fondation.